Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle exploration en profondeur de nos textes anciens. Aujourd'hui, on s'attaque à du lourd, vraiment un des textes les plus spectaculaires de l'Antiquité.
Ah ouais, carrément spectaculaire. On va plonger dans les chapitres 1 et 2 du livre des Actes des Apôtres?
C'est ça. Et pour nous guider, on s'appuie sur la 7e conférence du docteur Craig Kinner, un expert qui décortique cette œuvre sous un angle hyper précis et c'est passionnant.
Ouais, parce que notre mission dans cette analyse, c'est pas de lire ça comme une vieille archive historique pleine de poussière, tu vois.
Surtout pas, non.
C'est faut le voir comme un manuel de tactique, en fait. C'est une vraie feuille de route pour une mission mondiale, qui a pour but de pulvériser les barrières culturelles et sociales.
Exactement. Et pour bien saisir le truc, pour ceux qui nous écoutent, imaginez un peu la sortie au cinéma pour voir la suite d'un film super attendu.
Ah, j'adore cette analogie.
Bah oui, parce que le premier opus, disons l'évangile de Luc, pour filer la métaphore, c'était un drame intime, tu vois. Un lieu unique, super ancré dans l'héritage d'une seule culture, centré sur Jérusalem, et là, bam!
Les lumières s'éteignent.
Voilà, la suite commence, et d'un coup, c'est un thriller d'action explosif à l'échelle mondiale, et ça va finir par taper en plein cœur de l'Empire romain. C'est vraiment un choc littéraire, ce livre des Actes.
Et ce changement de genre littéraire, il n'est pas du tout fait au hasard. C'est un vrai pivot stratégique, en fait. Faut savoir que dans la littérature antique, c'était super rare qu'une œuvre annonce sa thèse dès le départ.
Ah bon? Ouais.
C'était pas la norme. Non, pas du tout. Mais le livre des Actes, lui, il le fait direct au chapitre 1, verset 8. Il annonce qu'ils vont recevoir une puissance pour être des témoins, je cite, « jusqu'aux extrémités de la terre ».
C'est ambitieux.
Grave ambitieux. On passe d'un récit très enraciné dans le local à une expansion hyper agressive, enfin, dans le bon sens du terme. C'est un saut vers l'inconnu.
Sauf que c'est là que je trouve ça dingue, le démarrage de cette fameuse mission mondiale. Il est complètement paradoxal.
Tu penses à l'instruction de Jésus.
Ouais, exactement. On a ce grand mandat, aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et la toute première chose que Jésus dit à ses disciples, qui devaient être gonflés à bloc et prêts à y aller, c'est « ne faites rien, attendez à Jérusalem ».
C'est un peu frustrant.
C'est comme mettre un pilote de Formule 1 dans sa voiture, tu allumes le moteur et tu lui dis « surtout, tu touches pas à l'accélérateur ». Je veux dire, pourquoi les forcer à cette inaction alors qu'il y a le monde entier à sauver ? Ça devait être insoutenable d'attendre comme ça.
C'est clair que ça devait démanger. Mais cette attente, c'est vraiment le fondement même de la mécanique du livre des Actes. En fait, la mission est d'une telle ampleur qu'elle est juste structurellement impossible à réaliser avec des simples forces humaines.
Ouais, il fallait briser l'illusion qu'il pouvait le faire seul.
Exactement. Jésus exige cette inaction pour casser toute illusion d'autonomie. Et la préparation qu'il demande là, c'est la prière. Le texte fait d'ailleurs un pont direct avec Luc, qui disait que si des parents humains savent donner de bonnes choses, le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui demandent.
Ah ouais, la connexion est claire.
Et il y a aussi un écho hyper puissant à l'Ancien Testament. Quand Jésus monte au ciel, les gens de l'époque, ils font direct le lien avec le prophète Élie.
Ah oui, avec Élisée, c'est ça.
C'est ça. Quand Élie monte au ciel, il laisse une double portion de son esprit à son disciple Élisée pour continuer le job. La logique est la même ici. Jésus transmet son propre esprit à cette communauté naissante pour qu'elle devienne une extension de lui-même, en fait.
D'accord. Donc l'attente a un vrai but théologique. On comprend qu'ils ne peuvent pas y arriver seuls. Mais si on regarde le plan d'action géographique, Jérusalem, la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la Terre.
C'est un sacré programme.
Grave. Et aujourd'hui, on voit bien la planète depuis l'espace. Mais pour des gens du 1er siècle, sous l'Empire romain, comment ils cartographiaient mentalement ces fameuses extrémités?
C'est super intéressant parce que leur vision du monde était beaucoup plus vaste qu'on pouvait le croire, bien au-delà des frontières romaines. À l'ouest, ils imaginaient l'Espagne et ce qu'ils appelaient le fleuve océan, censé entourer les terres.
D'accord, l'Espagne, c'est loin, mais classique. Et à l'est?
À l'est, grâce aux routes de la soie et des épices, les Romains connaissaient très bien l'Inde. Ils avaient même des contacts indirects avec la Chine.
Ah ouais? Dès le 1er siècle?
Ouais, absolument. Au nord, tu avais la City, donc des zones qui vont de l'Allemagne à la Russie actuelle. Pour eux, c'était vraiment des terres sauvages. Et au sud, ça s'arrêtait pas à l'Égypte, non.
Ça descendait plus bas.
Oui, il y avait des royaumes africains super puissants, comme le royaume de Méroé, en Nubie. D'ailleurs, les Romains n'ont jamais réussi à les conquérir. Et les routes commerciales descendaient jusqu'à l'actuelle Tanzanie. On y a retrouvé des vestiges romains.
C'est fou, jusqu'en Tanzanie.
Donc tu vois, les extrémités de la terre, c'était pas juste une figure de style local, c'était une ambition colossale. Rome n'était pas le but final, c'était juste un hub de transit, quoi.
C'est complètement vertigineux. Ils ont donc cette carte mentale immense, mais, et là, ça me laisse un peu perplexe. Juste avant de partir conquérir ce monde, ils s'arrêtent pour faire quoi ? Une sorte de réunion administrative ?
Ah oui, le remplacement de Judas.
Apôtres, je veux dire, pourquoi s'embêter avec un problème de ressources humaines quand un défi pareil les attend ? C'est un peu bureaucratique, non ?
Ça y ressemble, de notre point de vue, c'est clair. Mais pour eux, la mission ne peut tout simplement pas commencer si leur identité symbolique n'est pas parfaite. Ce chiffre 12, c'est pas pour faire joli, ça représente les 12 tribus d'Israël.
Ah, la symbolique est forte.
Très forte. Pour se présenter comme le renouveau d'Israël et l'accomplissement des prophéties, la structure de base doit être complète. Le décor devait être nickel avant que la fameuse puissance ne fasse son entrée.
Eh bien, parlons-en de cette puissance, parce que les sources abordent un concept théologique fascinant pour décrire l'arrivée de l'Esprit. Le fameux « déjà et pas encore ».
C'est un concept central, oui.
Pour essayer de vulgariser un peu, c'est comme la bande-annonce d'un film à gros budget, non ? On a 2 minutes d'effets spéciaux incroyables pour prouver que le film est réel, mais on ne peut pas encore voir le long métrage en entier.
C'est une super image.
Mais du coup, la question qui se pose, c'est si cette puissance est vraiment là, pourquoi la dure réalité autour d'eux, genre l'oppression militaire des Romains ou la pauvreté extrême, pourquoi ça ne disparaît pas instantanément ?
L'image de la bande-annonce saisit bien l'idée. Mais le texte, en fait, utilise un terme du droit commercial antique pour expliquer ça. C'est le mot grec « arébon ».«
Arébon », ça veut dire quoi exactement ?
Dans le jargon des affaires de l'époque, un arébon, c'est un acompte. Le tout premier versement d'un héritage ou d'un contrat bien plus gros.
Ah, une garantie financière ?
Exactement, c'est pas juste une métaphore poétique, c'est une garantie. Le déjà et pas encore, ça veut dire que le royaume de Dieu est inauguré, la nouvelle ère commence, mais elle n'est pas encore achevée ou consumée. L'oppression romaine est toujours là parce que le monde entier n'a pas encore été transformé.
Je vois. Donc l'Église, c'est l'acompte.
Voilà. L'Église doit être cet acompte vivant, un échantillon visible, ici et maintenant, de ce à quoi ressemblera l'humanité réparée plus tard.
Ok, mais pour être cet acompte, ils reçoivent une force spécifique. Comment on fait la différence entre cette puissance divine dont on parle et juste un leader humain avec un charisme de fou ? Je veux dire, on connaît tous des gens capables de galvaniser une foule juste en parlant bien.
La différence, elle est vraiment dans la fonction de cette puissance. Dans le judaïsme ancien, comme dans les manuscrits de la Mer Morte, l'esprit est toujours lié à la puissance prophétique.
Donc, bien plus que du simple charisme.
Clairement. Jésus dit à un groupe de pêcheurs et d'ouvriers manuels qu'ils vont désormais tourner avec le même moteur spirituel qu'Ézéchiel, Jérémie ou Isaïe. C'est pas du magnétisme, c'est une puissance d'évangélisation où le message est validé par des actes surnaturels. D'ailleurs, il y a une implication christologique énorme ici, pour utiliser un gros mot.
Attends, christologique ? On va s'assurer de perdre personne en route, là. Tu veux dire que ça redéfinit complètement l'identité de Jésus ?
C'est exactement ça. Dans le livre d'Isaïe, Dieu, Yahvé, déclare à son peuple « Vous êtes mes témoins ». Yahvé demande l'allégeance totale. Mais dans Actes 1-8, Jésus prend cette phrase et dit « Vous serez mes témoins ».
Ah ouais, le changement de pronom change tout.
Pour un auditoire juif du 1er siècle, c'est une déclaration de divinité absolue. Jésus prend purement et simplement la place de Yahvé.
D'accord. Le décor est complètement planté, la théologie est claire, on a le plan, on a la compte du futur. Et là, bim, on arrive au fameux jour de la Pentecôte. Les effets spéciaux dont on parlait tout à l'heure se manifestent vraiment. Le texte parle d'un vent violent et de langues de feu.
Et ces phénomènes sensoriels, c'est ce qu'on appelle des marqueurs de théophanie. En gros, c'est une irruption visible et audible de Dieu dans notre monde matériel. Le vent, ça renvoie direct à la vision d'Ézéchiel 37.
Celle avec les ossements.
Oui, la vallée d'ossements desséchée, le souffle de l'esprit entre pour ramener une armée à la vie. Et le feu, lui, a un double sens. D'un côté, c'est la présence pure de Dieu, comme pour le buisson ardent de Moïse, mais de l'autre, c'est aussi le jugement eschatologique, la purification de la fin des temps, comme on le lit dans Ésaïe 66.
Donc le feu brûle l'impur pour préparer la nouvelle création.
Exactement. Et le docteur Kinner note un truc hyper important. Ce vent et ce feu ne se répètent quasiment jamais dans la suite du livre des Actes. Il a bien eu de rares exceptions historiques, genre des réveils en Indonésie ou en Inde bien plus tard. Mais en gros, ces signes physiques étaient un électrochoc d'inauguration, un événement unique.
Ok, donc le vent et le feu captent l'attention. Mais la vraie mécanique du miracle, le truc qui déclenche tout le reste, c'est l'histoire des langues. T'as cette foule multiculturelle incroyable, la diaspora juive, venue pour la fête, et d'un coup, ils entendent des Galiléens parler dans leur propre langue maternelle.
Et c'est là que le sens profond se révèle.
Grave, parce qu'il y a une ironie poétique assez mordante ici. La diversité des langues, historiquement, c'est ce qui divise l'humanité. Et là, c'est utilisé pour la rassembler.
C'est une observation fondamentale. L'auteur des Actes construit ici un parallèle théologique brillant avec la Genèse. Si on regarde Genèse 10, on a la fameuse « table des nations », la liste des peuples.
Et juste après, la tour de Babel.
Voilà, Genèse 11, à Babel, Dieu disperse les langues pour casser l'orgueil et l'unité rebelle des humains. Dans Acte 2, la liste des nations présentes fait complètement miroir à Genèse 10. Mais la dynamique est inversée.
L'esprit fait l'inverse de Babel.
C'est le mécanisme anti-Babel par l'excellence. Le miracle des langues, c'est pas un tour de magie pour faire le buzz. C'est un équipement utilitaire pour franchir instantanément les barrières culturelles. Ça crée une nouvelle unité qui célèbre la diversité au lieu de chercher à l'écraser.
Sauf que, bon, ce miracle public, il crée un chaos pas possible dans la foule. Ils comprennent rien. Du coup, l'apôtre Pierre prend la parole pour gérer la crise et son discours va littéralement démolir les structures sociales de l'époque. Il cite le prophète Joël pour redéfinir qui fait partie de ce mouvement.
Et l'explication de Pierre, c'est une démocratisation radicale de l'accès à Dieu. En citant Joël, il dit que l'esprit est répandu sur toute chair. Ça détruit direct les barrières de genre. Vos fils et vos filles prophétiseront.
Déjà ça, pour l'époque.
C'est énorme. Et ça pulvérise les barrières de classe sociale. Il mentionne les servantes. On parle des gens tout en bas de l'échelle romaine qui deviennent des porte-paroles divins. D'ailleurs, Marie, la mère de Jésus, s'était elle-même qualifiée de servante. C'est un vrai modèle.
Et il y a aussi l'âge, non ?
Oui, ça transcende les hiérarchies d'âge, ce qui était impensable dans une société patriarcale. Les jeunes reçoivent des visions autant que les anciens reçoivent des songes. En gros, le monopole prophétique de l'élite est mort.
Et cette promesse de puissance accessible à tous, elle a traversé l'histoire. Les sources montrent d'ailleurs que cette idée de baptême dans l'esprit a créé de gros débats historiques. Précisons pour ceux qui nous écoutent qu'on n'est pas là pour donner des bons points ou choisir un camp, mais juste pour analyser comment ça a été reçu.
Et le débat est fascinant. Historiquement, la tradition réformée a souvent vu ce baptême dans l'esprit comme l'acte même de la conversion. Pour eux, on reçoit tout l'esprit d'un coup quand on devient croyant.
D'accord. Et de l'autre côté ?
De l'autre côté, les traditions pentecôtistes et wesleyennes lisent plutôt Acte 2 comme une expérience ultérieure, une deuxième étape distincte du salut. Et l'analyse de Kinner essaye de concilier un peu ça. Théologiquement, c'est scellé à la conversion, mais dans le récit de Luc, on voit des croyants connaître de multiples remplissages selon les besoins.
Comme Pierre qui est encore rempli au chapitre 4, c'est ça ?
Exactement. La vraie question, au fond, c'est pas la chronologie, c'est le besoin chronique et répété de cette puissance face à l'opposition.
Et ce besoin de puissance, il a poussé des gens à des extrêmes assez dingues. Les sources racontent l'histoire de pionniers de la fin du 19e siècle qui lisaient Acte 2 et qui achetaient des billets aller simples pour la Chine ou l'Inde. Ils pensaient qu'ils allaient descendre du bateau et parler mandarin par miracle.
C'est une histoire incroyable, oui.
Comment on analyse ça ?
Parce qu'en arrivant, ils se sont pris le mur de la réalité linguistique en pleine face. La déception a dû être dévastatrice. C'est clair que, d'un point de vue humain, ça a été une désillusion brutale. Ces premiers missionnaires pentecôtistes priaient avec ferveur pour des langues missionnaires, en pensant que Dieu allait refaire exactement la Pentecôte. Factuellement, ça a échoué. Ils ont dû apprendre les langues à la dure.
L'intention était là, mais pas la méthode.
Voilà. Mais ce qui est fascinant, c'est que si la méthode pratique était fausse, leur intuition sur l'ADN d'Acte 2 était parfaitement juste. Ils avaient compris que cette puissance spirituelle ne servait à rien si elle ne permettait pas de franchir les frontières interculturelles.
Et cette intuition sur les frontières a explosé lors du grand réveil d'Azusa Street à Los Angeles en 1906. On est en pleine Amérique, ségrégationniste, les lois Jim Crow, et Acte 2 va provoquer un vrai séisme social.
C'est vraiment le test ultime de la théologie de la Pentecôte. Ce mouvement était dirigé par William Seymour, un pasteur afro-américain. Ses propres parents étaient nés esclaves, faut s'en rendre compte. Et sous sa direction, on voit des Noirs, des Blancs, des Asiatiques et des Hispaniques prier et adorer ensemble.
Une égalité totale en 1906.
Et ça a choqué tout le monde. Son propre ancien mentor, Charles Parham, un dirigeant blanc, est venu sur place et a eu une réaction d'une violence raciste inouïe. Il a condamné ce mélange racial en appelant ça, je cite, « un sombre camp meeting ».
Attends, son propre mentor a dit ça ?
Waouh, c'est la collision frontale entre la théologie et les pieux préjugés humains. Comment Seymour l'a réagi à ça ?
Avec une clarté théologique implacable, il a compris le mécanisme anti-Babel dont on parlait. Si l'esprit vient explicitement pour renverser les divisions et réconcilier les nations, alors la ségrégation, c'est une rébellion directe contre l'esprit.
C'est puissant comme argument.
Seymour a posé un principe de base. Tu peux pas prétendre parler la langue des anges ou avoir une puissance spirituelle si tu es incapable de t'asseoir à côté de quelqu'un d'une autre couleur de peau. Pour lui, la vraie preuve de la présence divine, c'était pas de faire des miracles vocaux, c'était le lavage de la ligne de couleur. La réconciliation ethnique était la seule vraie preuve que la Pentecôte fonctionnait.
Ah oh. Ce qui nous ramène directement à Jérusalem, juste après le fameux discours de Pierre. La foule est touchée, il demande quoi faire. Et Pierre lance une exigence qui était, une pilule incroyablement amère à avaler pour eux.
Très amère, oui. Pierre fait deux choses super audacieuses. D'abord, il utilise une méthode rabbinique, le Gezer Hashava.
Ça, c'est l'équivalent antique d'un lien hypertexte, non ? Tu connectes deux documents par un mot-clé pour trouver un sens caché.
C'est exactement l'idée. Il connecte les mots du psaume 16 et du psaume 110 pour prouver à son public juif que Jésus, qui venait d'être crucifié, a été élevé au même niveau que Yahvé. Et là, il balance l'appel à l'action. Repentez-vous et soyez baptisés.
Et ça, pour un juif du 1er siècle, c'est...
C'est un choc sismique pour leur identité. Le baptême par immersion, à l'époque, c'était un rite de purification réservé presque exclusivement aux païens qui voulaient se convertir au judaïsme. C'était le rituel des étrangers, des impurs.
Imagine la scène. Les sources disent que ça s'est sûrement passé dans les mikvés, ces bassins rituels autour du mont du Temple. Demander à la fière élite de Jérusalem de faire le rite des étrangers, c'est leur dire en gros... Votre généalogie, votre statut, ça vaut plus rien ici.
Et la vulnérabilité exigée par ce rituel est totale. Faut s'imaginer, hein. Les bains se faisaient souvent complètement nus, avec des zones séparées pour hommes et femmes, bien sûr. Mais ce dépouillement physique, il matérialisait un vrai dépouillement identitaire.
Tu repars de zéro, en fait.
C'est le message radical de Pierre. Vous entrez dans cette nouvelle communauté sur le même pied d'égalité que le païen le plus éloigné.
Et cette table rase, elle crée une communauté complètement inédite à la fin du chapitre 2. Ils vendent leurs biens, partagent l'argent selon les besoins et prennent leurs repas ensemble de maison en maison. Et ça, les repas, faut qu'on en parle. Aujourd'hui, on dirait que c'est juste du réseautage ou un déjeuner entre collègues. Mais dans l'Antiquité romaine, manger avec quelqu'un d'une classe inférieure, c'était quasiment un suicide social, non ?
Totalement. Partager une table dans l'Antiquité, c'est un acte politique hyper lourd. La table, c'est le reflet strict de la hiérarchie romaine. Tu manges qu'avec tes égaux. Un maître s'assoit pas avec un esclave.
Jamais.
Donc, s'asseoir à la même table, c'est dire au monde entier « cette personne est mon égale, on est lié par une alliance ». Les sources de l'époque racontent une histoire géniale pour illustrer la force de cette alliance. C'est l'histoire de deux guerriers grecs.
Vas-y, raconte.
Ces deux gars sont de cités ennemies. Ils se retrouvent sur le champ de bataille, prêts à s'entretuer. Juste avant de se battre, ils échangent quelques mots et découvrent que leurs pères respectifs, des années avant, avaient partagé un banquet et s'étaient offert l'hospitalité.
Et ils font quoi ?
Ils baissent direct leurs armes. Ils refusent de combattre. L'alliance créée par un simple repas, même une génération plus tôt, annulait la guerre en cours.
C'est d'une puissance ahurissante. Donc, quand le texte dit que les chrétiens mangeaient ensemble de maison en maison, ça veut dire que des patriciens, des esclaves, des hommes, des femmes de tous horizons fusionnaient leur statut autour de la table.
Et c'est ça la mécanique secrète de leur expansion. Le texte parle de l'enseignement des apôtres, de la prière. Ouais, mais cet engagement économique et social où l'humain passe avant la propriété privée, ça redéfinit l'investissement.
C'est-à-dire ?
Ils transféraient leurs actifs financiers dans le bien-être de leur communauté. Si les miracles ont attiré les regards, l'outil d'évangélisation le plus dévastateur pour l'Empire romain, c'est vraiment la façon dont ils refusaient les clivages. L'esprit transforme des individus isolés en une famille d'alliances indestructibles.
Prenons un peu de recul pour conclure tout ça. Si on rassemble toutes les pièces, le livre des Actes, c'est pas juste l'histoire pittoresque d'une religion avec du vent et du feu. C'est vraiment l'architecture d'un mouvement d'inclusion radicale. Une force qui fait ce que la sociologie humaine, toute seule, est incapable de faire.
C'est exactement le cœur du message. Et le docteur Kinner souligne une caractéristique de l'œuvre. Le livre des Actes se termine de façon hyper abrupte. Paul est à Rome, assigné à résidence, et boum, Le texte s'arrête.
Sans vraie fin, quoi.
De Meulé, l'auteur veut montrer que la mission porter ce message jusqu'aux extrémités de la Terre, elle n'est pas finie. La trajectoire lancée au chapitre 1 continue de percer le temps pour arriver jusqu'à nous.
Ce qui nous laisse, pour ceux qui nous écoutent, avec une vraie réflexion pour notre époque. À l'origine, le mandat, c'était d'aller aux confins du monde. Mais aujourd'hui, alors que le moindre centimètre de la planète est cartographié et connecté en une milliseconde, où sont les véritables extrémités de la Terre ?
C'est la grande question.
Est-ce que c'est les nouvelles frontières numériques, souvent opaques, où des identités s'isolent, ou les immenses gouffres idéologiques qui fracturent nos sociétés ? Ou alors, et c'est peut-être le plus dur, est-ce que l'extrémité la plus lointaine, c'est la barrière de la solitude extrême et de la misère qu'on trouve à 3 mètres de notre porte dans nos propres villes ultra-connectées ? Le plan d'action d'acte 2 est toujours là. Reste à savoir comment on va l'appliquer à notre propre carte du monde.